Le point.
Bonjour à tous, bienvenue dans le tacle du lundi, le podcast consacré au foot, diffusé sur Le Point et enregistré tous les lundis. Et cette semaine, ah là là, l'équipe au grand complet, Adrien Mathieu qui a gagné le Girondin.
Ça y est, enfin, la troisième de la saison, ça fait tellement du bien.
Vous êtes relancé là ?
Bah là, on est 15ème, ça y est, hein, plus rien ne nous arrête.
À combien de points de l'Europe ?
Ah, ça va être une bonne question. Je pense qu'on doit être à, 9 ou 10 points de l'Europe. Parce que c'est assez serré.
C'est assez serré, oui.
Donc tout est possible encore pour.
Vu que maintenant
Strasbourg d'abord.
Le 13ème est en Conference League, je sais pas quoi, c'est facile quoi.
En C7.
En C7. lui, il est en C3. C'est Julien Rebucci, bonjour.
C3 Diesel, oui, bonjour.
Ça va, tout va bien ?
Tout va bien, oui. Match nul contre Venise pour la Juventus Turin. Bon, il y a eu des moments plus difficiles, il y a eu aussi des moments plus faciles, mais bon, la saison est longue.
Et Thomas Strasbourgeois Müller, bonjour.
Bonjour Florent Baracco. Parce qu'on ne dit jamais ton nom et c'est triste.
C'est gentil.
Il ne te présente pas.
C'est gentil, surtout qu'on s'approche de la fin.
Oui, donc, tout à fait. Il est temps de le dire.
Il faut le dire. Hier, vous y avez cru, mais c'était méno-méno.
J'ai cru que le maintien allait se faire à la trêve et en fait, non. Non, c'est très bon, hein. je relève pas, mais c'est très bon, merci.
Nous sommes très en forme, en tout cas. Nous allons parler un peu de Ligue 1, mais pas que, et vous verrez de quoi
on... Il y a des surprises.
Il y a des surprises, voilà. Parce que ce podcast évolue, change en temps réel, et nous sommes capables de bouleverser le conducteur comme ça. Voilà, un petit rappel du concept quand même. Chaque participant a une minute pour tacler un joueur, une équipe, un coach, un arbitre, un fait de jeu, et les autres doivent dire si ce tacle est régulier ou s'il mérite une sanction administrative, donc un carton jaune ou un carton rouge, hein, doit-on le rappeler. À vos tacles, messieurs, et on va commencer par un énième tacle à Lionel Messi, Julien Rebucci. Lionel Messi, je crois qu'il a été plus taclé par nous que par les joueurs de Ligue 1.
C'est possible, et j'ai réussi un exploit ce week-end, c'est trouver quelqu'un d'encore plus mauvaise foi que feu Olivier Péroux, un ancien acteur de ce tacle. En la présence de Carlos Bianchi, donc en fait, qui a donné une interview à l'équipe dimanche, où il explique que le problème de Lionel Messi, c'est qu'au PSG, il n'y a pas d'avant-centre type pour lui qui pourrait faire des 1-2 avec lui et lui rendre le ballon en retrait pour qu'il puisse bien jouer. Donc en fait, Carlos Bianchi nous explique que le septuple, c'est comme ça qu'on dit quand on gagne 7 ballons d'or, qui a joué, je vous rappelle quand même, avec Neymar pendant 186 matchs entre 2013 et 2017, n'a pas le bon attaquant à ses côtés. Donc je l'ai déjà dit, Neymar a joué 4 saisons avec lui. Il y a Mbappé, Di Maria et Icardi en plus, mais ça ne suffit pas pour Lionel Messi. Donc je me demande quand est-ce que la farce va s'arrêter. Au mois de novembre, Messi nous expliquait dans Le Parisien que le championnat de France était trop physique pour lui. Je ne comprends pas comment un joueur qui a 7 ballons d'or trouve autant d'excuses à sa médiocrité.
Surtout que moi, je pensais qu'avec Neymar, Mbappé et Messi, il y avait un QI football énorme et qu'ils n'avaient quasiment pas besoin de s'entraîner, ils sentaient le jeu. Ouais. Donc finalement, non.
Oui, alors finalement non. La dernière interview de Mbappé était assez intéressante là-dessus, quand il parle de Lionel Messi et qu'il explique sa relation avec lui et qu'il dit, je crois, bon, c'est quand même Lionel Messi, quoi. Donc il y a l'aura du joueur, mais on se rend bien compte que sur le terrain, ça suit plus forcément. Il y a
le ballon d'or d'ORT.
Le ballon d'or d'ORT, est-ce que c'est vraiment une erreur de casting comme on l'a déjà évoqué plusieurs fois dans le tacle, le mercato du PSG semble être une erreur de casting générale.
On peut pas vous laisser dire ça quand même. Sergio Ramos a fait quand même 60 minutes extraordinaires.
Voilà, oui, je voulais en venir à ça. On s'y rapproche de plus en plus, quoi.
Adrien, carton jaune, carton rouge, tacle régulier.
Non, tacle régulier parce qu'on attend forcément toujours plus de Lionel Messi. Et de ce que j'ai pu voir, je sens quand même une toute petite montée en puissance, mais c'est vraiment très léger.
Un frémissement. Trop
peu. Voilà, exactement.
Hier, on l'a vu trottiner, donc c'est pour dire s'il va bien.
Hein. Bah, on sait qu'il fait toujours son 15 km marche comme Johan Diniz chaque match. C'est pas nouveau depuis l'FC Barcelone. Mais voilà, en Ligue des Champions, quand même, contre Bruges, il était présent. Là, il a manqué un peu de réussite, je trouve. Les coups francs ne passent pas trop loin. Dans la finition, son petit piqué, c'était un de ses FCJS favori à Barcelone, il passe à côté du poteau de Neubel, le gardien de Monaco. Donc moi, j'ai le sentiment quand même que Messi est un peu mieux. Mais voilà, il est trop discret. C'est vrai que par rapport à Mbappé, qui vraiment prend toute la lumière, et c'est vrai qu'on n'a peut-être pas encore pris assez en compte le fait que voilà, le joueur principal du PSG est en fin de contrat dans 6 mois. Il n'y aura personne pour le remplacer. Je suis très curieux de voir l'animation offensive dans la saison 2022-2023 si Mbappé part au Real Madrid libre, ce que va faire Leonardo, parce que là c'est assez effarant à quel point voilà, le PSG compte trop sur Mbappé pour se sortir de traquenard.
Pardon, le marketing du PSG en tout cas compte bien lui sur Messi, on l'a vu avec ses petits flocages dorés hier soir, qui étaient vraiment du plus bel effet.
Mais je crois qu'ils essayent d'avoir un remplaçant à Mbappé. Oliver Bierhoff, paraît-il, c'est pas mal. Puisque comme ils ouvrent une maison de retraite, là, ils vont recycler large.
Bah non, mais il faudrait demander à Messi directement qui il veut comme copain à côté de lui pour lui faire de la
passe. Bah Suarez.
Suarez, oui.
Ce serait, je ne sais pas pourquoi Leonardo pourrait beaucoup penser à cette possibilité, parce que reformer le trio du Barça, bon, il serait un peu tombé dessus. Mais non, je pense quand même que le PSG essaiera d'aller vers de nouveau un attaquant un peu jeune qui puisse apporter quelque chose. Alors, Haaland, ça quand même, ça va être très très compliqué parce que la concurrence est rude. Mais il y a des bonnes relations avec Mino Raiola, parce que Donnarumma est venu, Wijnaldum aussi. Donc voilà, est-ce que finalement ce mercato un peu raté pour l'instant, ça va pas leur permettre de faire venir Haaland, parce qu'on entretient des bonnes relations avec l'agent, je ne sais pas, mais en tout cas remplacer Mbappé, ça me paraît colossal aujourd'hui pour le directeur sportif du Paris Saint-Germain.
Et dans votre esprit, Mbappé va pas rester, parce que là il est quand même en position de force, en disant voyez, je porte l'équipe tout seul, et là le PSG va peut-être s'aligner. Non, ça vous semble pas...
Moi, sa place, en fait, c'est particulier. Je pense que le PSG ne mise pas sur lui, on le voit jour après jour. Et à sa place, humblement, je partirais aussi vite que possible. Quoi. Quand je vois cette situation-là, le PSG est un bourbier sans nom. Quoi.
Oui, ce n'est pas qu'une question d'argent, quoi, c'est ça.
Ah bah là, c'est même plus une question d'argent, parce qu'il est très bien payé actuellement.
Non, mais quand Florent parle d'alignement, c'est-à-dire que le PSG pourrait s'aligner sur l'offre de le Real en termes de salaire, c'est ça.
Oui, et puis céder peut-être à un caprice de Mbappé sur un recrutement.
C'est pas dit que le Real Madrid lui offre plus chaque année que lui offre déjà le PSG. Hein.
Bah en tout cas, je pense que la perspective de rejoindre le Real Madrid, pour lui, elle est conséquente. Et voilà, être dans un trio, on l'a vu, hein, son entente avec Benzema en équipe de France, voilà, il l'apprécie, il le dit dans plusieurs interviews. Je pense qu'avec Vinicius Junior, qui est quand même en train de monter en puissance de manière assez phénoménale sur ce début de saison, ils peuvent former un trio beaucoup plus cohérent que ce qu'on peut voir aujourd'hui avec Neymar et Messi. C'est-à-dire que dans la répartition des rôles, je pense qu'au Real Madrid, il sera bien mieux et même mieux entouré. C'est bizarre de dire ça alors qu'on a Neymar et un septuple ballon d'or, comme l'a dit Julien.
Mbappé, moi, j'aimerais bien le voir en Angleterre. Je sais que tout le prédestine à aller à la Casabianca du Real Madrid, mais
je pense à Liverpool.
En Angleterre, ça serait une palanquée de buts chaque saison. Un truc assez effrayant, quoi.
Et pourquoi pas acheter pour le PSG Vinicius Senior?
Pas mal, pas mal.
Comme ça, au moins, voilà, on reste dans le thème. La VAR va valider ce tacle.
Oui, je n'ai pas grand-chose à dire, même si tu oublies quand même qu'il fait froid à Paris et que la circulation est très compliquée.
Aussi,
donc le pauvre, il faut quand même penser à ça, c'est dur à vivre. Non, après, un peu plus sérieusement, s'il marque deux buts en huitième de finale retour face au Real Madrid en février, peut-être le Real Madrid, on verra ça plus tard, on oubliera tout, on se dira que c'est un génie et que le PSG aura vraiment réussi son mercato avec Wijnaldum qui va faire quelques matchs de plus et puis Donnarumma qui fera un bel arrêt, enfin voilà.
On ne va pas jeter nous la pierre ici aux gens de mauvaise foi, nous sommes assez bien placés pour en
jouer. Je vois pas ce que vous parlez.
Bravo.
Enfin, à l'instant T, Messi c'est quand même 10 matchs en Ligue 1, un but, hein.
Ouais. Voilà. Et un ballon d'or.
Et un ballon d'or vraiment gagné de haute lutte. Adrien, toi, tu vas aller du côté du Rhône.
Oui, du côté du Parc OL, du Groupama Stadium, où bah, ça ne va plus, tout simplement. Hein. L'OL, on parle d'une équipe qui est provisoirement 13e de Ligue 1, à 22 points du PSG. Alors certes, ce fameux match en retard contre Marseille peut leur permettre de passer sous la barre des 20 points, mais on parle quand même d'une équipe extrêmement loin de ses ambitions initiales en Ligue 1. Certes, en Coupe d'Europe, ça se passe bien, parce que voilà, 16 points sur 18 dans leur groupe d'Europa League, un huitième de finale assurée. Mais voilà, on doit être franc. Si cette équipe, elle affronte un cadre européen comme Dortmund, je pense que ça va passer à la trappe parce que les signaux qu'envoie l'équipe de Peter Boss sont aujourd'hui insignifiants. J'ai l'impression vraiment que quelque chose s'est cassé depuis le match à Rennes, cette fameuse défaite. Alors on avait glorifié à juste titre hein, l'équipe de Bruno Genesio ce jour-là, mais vraiment j'ai l'impression que quelque chose voilà, a été rompu du côté de Lyon. On se souvient de ces scènes où Boateng s'engueule avec Dubois, l'équipe nous a rapporté une embrouille entre Cherki et Boateng dans le vestiaire, et l'impression que Peter Boss ne sait plus où mener cette équipe. Il y a eu un passage avec une défense à 3, on l'a vu lors des matchs contre Bordeaux, contre Lille, mais en termes de jeu, ça n'arrive toujours pas à produire quelque chose, et encore une fois, comme depuis le début de saison, Anthony Lopez sauve cette équipe. Lyon encaisse beaucoup trop, et c'est aussi le problème de plusieurs personnalités, et je pense que forcément on doit parler de Juninho, qui voilà, va s'en aller dès le mercato hivernal. Il a commis des erreurs, je pense, notamment l'annonce de le timing de son annonce de départ, où voilà, je pense qu'il a précipité vraiment l'OL dans le flou, et voilà, on se souvient que Sylvinho, c'est lui qui l'a fait venir, c'était deux novices à deux postes où il y avait beaucoup de responsabilités, et on, voilà, ils n'ont pas su former un tandem efficace pour l'OL. Il y a eu des recrutements quand même hyper cohérents, Bruno Guimarães, Lucas Paqueta, mais aussi des Brésiliens totalement inconnus. Qui peut me parler aujourd'hui de Camilo ou Henrique? On ne sait pas trop ce qu'ils font là. Et enfin, c'est aussi un peu le problème de l'OL, c'est que tout le monde se tire un peu des balles dans le pied. Vincent Ponceau, par exemple, est le bras droit de Jean-Michel Aulas, le directeur du football, qui est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition personnelle, qui est présenté comme le monsieur rigueur de cette OL, qui, voilà, dès qu'on dépasse le budget, il met un stop. Et voilà, par exemple, on a pu lire récemment que Juninho voulait faire venir Gaëtan Laborde à Lyon, ça aurait pu être une excellente idée, mais voilà, pour une histoire de 2 millions de bonus, Vincent Ponceau a mis son droit de veto. Donc voilà, on sait plus trop où est Jean-Michel Aulas. Quand on l'entend, c'est pour le fameux match Lyon-Marseille, et il part complètement à la dérive, il faut le dire. Donc voilà, c'est un peu le cri du cœur aujourd'hui, c'est où va l'OL, parce que la grandeur des années 2000 paraît tellement loin aujourd'hui.
Et surtout, on nous avait vendu, alors moi, tacle complètement licite, bien sûr, on nous avait vendu un entraîneur offensif qui déploie du beau jeu. Ça a duré quelques semaines et c'est terminé, parce que la réalité de la Ligue 1 fait que si vous n'avez pas des résultats tout de suite, vous remettez en question votre niveau de jeu et votre stratégie de jeu. Et là, j'ai envie de dire, c'est bien, c'est pas beau, c'est boss.
On n'arrête pas aujourd'hui.
Ce sont les grosses têtes.
Alors, je vais devoir passer après ça, très bien. Oui, et tacle licite d'Adrien. L'impression qu'on est tout de même face à un cas d'école à Lyon actuellement. Moi, je continue de croire que Boss et que le Boss fait du bon boulot et qu'il a un groupe intéressant, mais que l'équipe est en train de se saborder par le haut quand un club n'est pas tenu. Au niveau de l'organigramme, ça s'en ressent à un moment donné dans les résultats. On ne comprend plus le positionnement de Jean-Michel Aulas, tu l'as dit. On ne comprend pas qui est M. Ponceau. Je ne vais pas rajouter les rumeurs sur Tony Parker qui pourrait reprendre le club. On ne sait pas pourquoi et d'où il vient. Juninho...
Lui, il est spécialiste en 3 points, peut-être.
Peut-être, oui, en 3 points. C'est très, très, très bon. Vous avez mangé du Lyon ce matin. Du Lyon.
Oui, très drôle.
Et voilà, j'ai perdu ce que je disais, c'est très bien, mais c'est pas grave, je vais me reprendre tout de suite. Juninho, c'est quelqu'un qu'on connaît pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Je suis d'accord avec toi, son timing est très très mauvais, mais à mon avis, s'il est parti, ça en dit assez long sur son niveau.
Peut-être qu'il n'est pas fait pour le poste aussi.
Désabusé aussi.
Peut-être qu'il n'est pas fait pour le poste, je ne sais pas, mais je pense que s'il en arrive à ce niveau-là, c'est que vraiment ça doit être difficile à vivre au quotidien.
Et ça va être très intéressant à suivre pour la suite, parce que la venue de Juninho, ça venait après la fin de Genesio à Lyon. C'était une manière pour Jean-Michel Aulas de réconcilier les supporters avec un peu l'âme de l'OL, parce que Juninho, ça représente quelque chose d'immense à Lyon. Aujourd'hui, Juninho va partir. Attention à ce que les supporters ne commencent pas quand même à être vivement agacés, parce que ça prend une très mauvaise direction. Donc je suis très curieux de voir comment l'OL va s'en sortir, parce qu'on l'a dit, en Ligue 1, c'est pas du tout ça. Il y a la Coupe de France, il y a la Coupe d'Europe, mais on peut voir que sur le terrain, il n'y a pas beaucoup de progrès. Et moi, sur Peter Boss, je comprends où est-ce qu'il voulait en venir à propos de son discours, de sa volonté de presser haut, d'avoir un bloc ambitieux, mais je sais pas si son message n'arrive plus à passer. Est-ce qu'il a les joueurs pour le faire, cette ambition-là? C'est très difficile. Hein.
Non, mais il y a deux entraîneurs qui avaient annoncé qu'ils joueraient très haut, qui déploieraient du jeu très offensif, et ils se sont reniés, c'est donc Boss, et c'est Sampaoli. Enfin, maintenant, Marseille devient la meilleure défense, alors qu'au début, ça partait dans tous les sens, ils attaquaient, et peut-être que la Ligue 1 bride les entraîneurs talentueux qui osent.
C'est ça. Peut-être qu'ils se sont confrontés à une réalité, c'est qu'ils sont arrivés avec leurs idées, ils se sont rendus compte qu'en Ligue 1, ça suffit pas. Et je pense que le match de Strasbourg l'illustre bien. C'est-à-dire que voilà, je crois qu'il y avait que trois offensifs, Dieng, Enrique, Payet. Mmh. Et derrière, c'était plus ou moins des joueurs avec des registres plutôt quand même défensifs. Même Sampaoli, à la fin, il a fait rentrer encore un défenseur central avec Balerdi, je crois. Donc c'était vraiment l'occasion pour lui de blinder. Mais ça illustre aussi, bah voilà, une forme de réussite, parce que je crois que Marseille n'a encaissé que 4 buts sur les 10 derniers matchs. Paul Lopez est une réussite du recrutement de Longoria, et voilà, à contrario de Lyon qui cherche encore la bonne formule défensive et qui se heurte à une réalité, c'est que la Ligue 1 est beaucoup plus compliquée que la saison dernière, parce que le niveau homogène a été rehaussé. On peut le voir, bah voilà, Nice a de nouveau un projet très ambitieux, Rennes a passé un cap, Lens est toujours là même si en ce moment ça va moins bien, Strasbourg, Montpellier s'en sortent bien, donc voilà, la Ligue 1 n'est plus aussi simple qu'avant.
Il y a tout de même sur Lyon, pour terminer, c'était pressenti un vrai problème avec Paqueta qui... Je pense là paye clairement son manque de repos durant l'été. Je crois qu'il a enchaîné la Copa América et les Jeux Olympiques. Et là,
pas les Jeux Olympiques, je crois pas. Mais vraiment,
je crois qu'il a. T'es sûr qu'il a pas joué?
Je crois qu'il a fait Copa, mais très très vite la reprise de la Ligue 1.
Ouais. Et enfin, il s'est pas reposé quoi.
Contre Monaco, je crois qu'il avait même pas eu 48 heures de repos. Ouais. Il avait pris l'avion. Enfin,
là, il est cramé, chez cramé. Il est cramé, chez cramé. C'était lui qui menait l'équipe depuis le début de saison. Et là, on voit que.
Ouais, c'est vrai que le match à Bordeaux c'était assez criant parce que il y avait Aouar, Shaqiri, Paqueta. La relation entre Aouar et Paqueta était là, et Shaqiri inexistant. Et là, je pense que peut-être qu'on fera un autre bilan plus tard, mais en termes de flop, Shaqiri, bah, c'est un peu comme Sergio Ramos dans un autre registre, mais c'est quelqu'un qu'on attendait et qui ne réussit pas en Ligue 1, donc voilà, ça dit quelque chose quand même.
J'avais une blague sur Shakira, mais je préfère pas parce que j'ai mis la barre trop.
Mais que doivent-ils faire pour que la défense s'emporte mieux, en fait? C'est ça la question.
Je sais pas, j'ai l'impression que hier à Lyon, il a trouvé un peu plus de solidarité, de collectif. Certes, c'était pas brillant, c'était quand même difficile dans la production offensive, mais voilà, encore une fois, sur la fin de rencontre, Antonio Lopez est très exposé, et le match à Bordeaux, ça illustre bien, par exemple, Lyon mène 2-1, comment Ellis peut faire un sprint de 50 mètres et se retrouver seul face à Antonio Lopez, il n'y avait plus personne, ça c'est quelque chose qui est assez effarant, donc faut trouver la bonne formule. Boss a tenté quelque chose à Lille, pour l'instant ça a l'air de un peu mieux payer, mais c'est pas encore trop consistant.
Sachant que les finances ne permettent pas à l'OL de faire un mercato hivernal fantastique. Hein. Ils vont pouvoir peut-être remplacer 2-3 trous, mais...
Ça parle de Sardar Azmoun, l'Iranien du Zénith, qui, je pense, leur fera beaucoup de bien devant. Mais c'est vrai que sur l'aspect défensif, il va leur manquer quelqu'un, peut-être un autre joueur pour accompagner Boateng, parce que je trouve que Boateng fait les choses bien, même s'il n'est voilà, pas à son meilleur niveau. Mais c'est encore trop frileux quoi, à tous les niveaux.
Ouais. Notre boss... du podcast, Thomas Strasbourgeois Müller, t'acclicite.
Ah oui, tout à fait. Oui, c'est une excellente analyse bien partagée d'ailleurs. Bravo.
Qu'est-ce qu'ils sont?
C'est brillant, ce podcast.
Qu'est-ce qu'ils sont? C'est brillant, ouais. C'est brillant. Il manque Payet, mais c'est brillant quand même.
Attention à la sortie de route maintenant.
Et oui, parce que alors vous êtes gentil avec votre Ligue 1, hein. Alors vous êtes gentil, mais enfin la Ligue 1. Arrêtez de regarder la Ligue 1. Regardez la Formule 1, parce que vous avez pas vu hier ce qui se passait en même temps que ce pitoyable Lille-Lyon. Il y avait quand même un Grand Prix extraordinaire, extraordinaire, avec Max Verstappen qui a remporté ce championnat du monde et la course. Et on a vu tout ce que le foot ne nous permet plus, c'est-à-dire on ose des arbitres, commissaires qui ne prennent pas fait et cause pour le grand mais pour le petit, avec la voiture de sécurité, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que nous ne sommes pas un podcast de Formule 1. Mais voilà, la Formule 1 ose, la Formule 1 a renouvelé le genre, a su se diversifier et attirer des jeunes, ce que le football, de manière générale, n'arrive plus à faire. Et on ne va pas se mentir sur les audiences, par exemple. Hier, il faut savoir que le Grand Prix de Formule 1 a attiré 1,9 million d'abonnés sur Canal. C'est quasiment autant qu'un PSG-OM sur Canal l'an dernier. Donc il y a un engouement terrible pour cette discipline, alors que notre Ligue 1, elle est isolée sur une chaîne que personne n'a, sur un service que personne n'a, avec des matchs diffusés à 13h en pleine tarte aux pommes et poulet rôti. Donc vraiment, abandonner la Ligue 1. Et nous d'ailleurs, nous allons abandonner le podcast et on va faire maintenant l'arrêt du lundi. Julien,
ce sera un carton rouge avec les deux pieds décollés. Vous me parlez d'un Grand Prix où il s'est passé quelque chose dans le premier tour. Ensuite, on a pu faire une sieste d'environ une heure et demie pour se réveiller au dernier tour avec une intervention de la VAR qui a tout changé dans le dernier tour de circuit. Circuler, il n'y a rien à voir.
Il n'y a rien à voir.
Il n'y a rien à voir.
Je pense que la Formule 1 peut inspirer la Ligue 1 et la LFP. Pourquoi ? Parce qu'on a, par exemple, sur la diffusion des images, j'ai pas besoin d'attendre 48 heures pour avoir voilà, les images d'Hamilton Verstappen, Hamilton Perez. Le lob de Kazri est intervenu le samedi à 17h. La Ligue 1 l'a publié sur ses réseaux le lundi matin. Il y a trop d'attentes et je pense que ça participe vraiment à la bonne diffusion, en plus de voilà d'une couverture très efficace de Canal+, qui semble vraiment délaisser la Ligue 1, parce que voilà, aujourd'hui les matchs sont diffusés sur Canal+ décalé et on a l'impression vraiment que c'est mis c'est un peu pour faire payer ce qui s'est passé avec Media Pro la saison dernière. Et c'est vrai que c'est très agréable de suivre la Formule 1, il y a la dramaturgie, il y a des très bons commentateurs. Franchement, on prend nos pieds et c'est aussi le cas d'un sport, je m'arrêterai peut-être Florent, mais un sport qui était un peu à l'arrêt il y a 10 ans, qui intéressait plus grand monde, qui était un peu renfermé sur lui-même. Et voilà, ils ont su faire un peu leur autocritique, repenser un peu leur formule, avec aussi l'apport de documentaires. Alors Netflix, ça a fait du bien ou du mal sur certains aspects, mais ça a quand même amené une nouvelle génération incroyable. Donc voilà, si peut-être les clubs de Ligue 1 ouvraient encore plus leurs portes, permettaient ça, peut-être que voilà, il y aurait justement cette nouvelle jeune génération que les Agnelli, tout ça, essayent de capter, mais qui n'y arrivent pas pour l'instant.
Tout en changeant pas les règles fondamentales du sport, comme le veut Agnelli, c'est-à-dire...
C'est ça.
Il n'y a pas les règles qui changent en F1 l'année prochaine.
Ah non, les règles ne changent pas. Les règles fondamentales ne changent pas. C'est toujours un départ sur une grille de départ avec un nombre de tours, des arrêts au stand, etc. Ben non, il y a certains qui voulaient changer les règles, mettre des mi-temps plus courtes. Donc voilà. Mais la Formule 1 a su innover, a su se révolutionner. Avec des sportifs qui sont beaucoup plus ouverts sur le monde et qui communiquent plus.
Pensez à Raikkonen.
Alors, Raikkonen, c'est l'ancienne génération, mais regardez Norris, Leclerc, ils discutent avec leurs fans, ils sont assez libres en interview et ils osent dire des choses. Typiquement, ce qu'on a, les conversations radio, on pourrait avoir aussi des conversations avec les arbitres, puisque hier, on a entendu d'ailleurs les patrons d'écurie parler directement avec les commissaires de course. Voilà, c'est de la modernité et je pense que la Ligue 1 et le foot en général devraient s'autoriser... à tester des nouveautés, à s'inspirer de la Formule 1. Et voilà, on y voit, c'est un spectacle extraordinaire et c'est un spectacle total. Et vous avez pendant 1h45 un spectacle total.
Mais ce problème-là, il est là depuis toujours pour le foot. Hein. La Ligue 1, quand elle était entièrement à Canal+, Canal+, ne faisait pas mieux sur la gestion des images. Hein. Le but de Kazri, il ne le mettait pas en autoplay sur Twitter d'emblée. Là, le dernier tour de Verstappen et Hamilton, c'était...
Ouais, mais justement, c'est les contrats.
Ah oui, je ne dis pas que c'est de la faute de Canal+. Hein. C'est sûrement peut-être la LFP qui dit non, ne diffusez pas ça tout de suite, il vaut mieux attendre le débrief du après-match, j'en sais rien, peu importe. Et surtout le privilégié à la télé. Mais quand on voit que le dernier tour Hamilton-Verstappen est diffusé d'emblée sur Twitter, vous voyez le succès que ça fait, vous voyez le succès que ça peut faire auprès des gens qui ne connaissent pas la F1. Et c'est pas que des abonnements pour Canal, hein, c'est aussi la visibilité pour le sport, et ça, ils font ça depuis quelques années. Moi-même, qui ne m'étais pas intéressé à la F1 depuis 2005, je vais avoir 15 ans, et j'ai découvert ça en 2018, hein, et c'est pas pour rien.
Époque Robert Kubica.
C'est ça,
c'est ça, tout à fait.
Non, mais c'est quand même très flagrant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde parle... de ce titre qui est quand même historique. Et hier, vous aviez quand même deux matchs qui devaient être intéressants en Ligue 1, puisque c'était deux chocs. Hein. Quand même, Lille-Lyon, c'est un choc, et PSG Monaco, c'est un choc. On n'en parle quasiment pas. Enfin, c'est quand même une différence majeure.
Il n'y a aucun accès à des images, on ne voit rien. Voilà. C'est assez invisible.
Mais heureusement, le podcast est là pour en parler, et comme c'est un succès considérable, disons-le.
Que les 10 matchs de Ligue 1 réunis.
Tout à fait. Ils ont plus d'audience qu'Amazon Prime, me dit-on, mais je veux pas m'avancer, c'est pas...
Mais faudrait pas penser que ce n'est que grâce à Netflix que la F1 a repris une hype, c'est aussi parce qu'il y a une bonne intelligence entre le diffuseur et les producteurs.
Je pense quand même que Netflix a bien aidé parce que
je suis pas sûr,
les deux sont pas décorrélés.
C'est tellement intelligent ce qu'ils font pendant une course.
Et on rajoutera que c'est du commentaire pur et on salue Julien Febro parce que nous on aime les commentateurs qui s'engagent, qui mettent de l'émotion,
qui
de la vie,
la fin, presque.
Qui pleurent, qui ont plus de voix, et voilà. Et le sport c'est aussi de l'émotion et se faire ça, et on l'avait dit avec Stéphane Guy qui était venu chez nous, des commentateurs ça doit nous faire vivre l'événement, et le foot c'est un peu aseptisé, quoi. Voilà.
Et en plus c'est invisible, c'est terrible.
Tout à fait. Bon, je crois qu'on est tous d'accord. Alors, on va passer aux...
Deux minutes de bonheur en plus.
Mais alors, de quoi va-t-on parler ? Puisque en ce moment, pendant que nous enregistrons, allez, on va dire la vérité, c'est le tirage au sort de la Ligue des Champions, donc on va pas parier sur un truc, voilà. La semaine prochaine, il n'y a pas de Ligue 1, puisqu'il y a de la Coupe de France. Et ben, je vais vous demander qui va remporter la Coupe de France.
C'est pas mal ça.
J'allais dire qui va finir champion d'automne, mais comme on le sait depuis un mois et demi, depuis cet été, donc ça va être compliqué quoi.
Le PSG.
Le PSG pour Julien.
C'est osé ça. Je pense que Lyon, qui n'a pas eu un titre depuis je ne sais combien de temps, va avoir faim. À leur 12e place de Ligue 1, ils auront trop faim. Je crois que...
Lyon. Thomas Bourgeois-Muller. Je dis pour une fois son vrai nom.
Merci.
Adrien.
Ah, je vais tenter une grosse cote. Pourquoi pas un Lens.
Lens. Très bien. Et moi, je vais dire, mais parce que voilà, Pep Genesio, le Stade Rennais, qui remportera la Coupe de France face au PSG.
C'est beau.
Voilà. C'est beau, hein. Messieurs, je crois qu'on s'est tout dit. On a fait long aujourd'hui, hein.
Non, c'est dans les.
On essaie dans les temps.
C'est dans les standards.
Ça m'a paru long en tout cas.
Comme Yannick Jadot. Long.
Long. D'accord. On va peut-être la couper. En tout cas, moi, ça m'a paru très très long. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir été là. Vous avez été exceptionnel. La semaine prochaine, on se retrouve pour la dernière de l'année, voire la dernière de la saison. Mais on peut rien dire. Oui. C'est en négociation. Les négociations sont tendues là avec la direction. Les droits télé, ça coûte cher.
Les pétitions en ligne sont les bienvenues.
Les pétitions change.org et Life for Podcast. Voilà, vous pouvez déposer votre signature.
Envoyez-nous la force.
Voilà, ou sinon, vous pouvez financer ce podcast.
Oui, des dons, c'est très bien.
Des dons aussi. Oui. Le Téléthon est passé, vous avez de l'argent maintenant. Merci à tous, bonne semaine.
Merci, Florent.
Et à lundi prochain. Salut.
Salut.
Le Point.